Bonjour et bienvenue dans le bulletin Azur témoignage. Nous sommes le 4 décembre 2012. Donc pour rappel, le bulletin Azur est à l'URL de référence akms/lebulletinazur. Nous faisons les annonces liées à ce bulletin sur @windowsfr, c'est du Twitter. Et également, vous pouvez nous écrire aux différentes adresses ici et nous ne répondrons pas, ou peut-être. Donc aujourd'hui, nous avons un épisode de témoignage avec Julien, Anthony et Jean-Marc qui vont se présenter. Bah, commençons par Jean-Marc, par exemple.
Bonjour, donc Jean-Marc Floret. Donc moi, je suis de la société Azeo et je dirige la practice développement au sein de la société.
Très bien, impeccable. Julien.
Bonjour, je suis Julien Macaire et je suis le cofondateur de Idils.
D'accord, dont nous allons parler aujourd'hui.
Tout à fait.
Bonjour, donc Anthony Malbert, je suis cofondateur d'Idils aussi et directeur technique.
Très bien. Donc, Idils, qu'est-ce que c'est que Idils?
Alors, Idils, c'est une jeune société créée en 2012, début 2012, qui est membre du programme Microsoft BizSpark, qui accompagne les sociétés, les jeunes sociétés innovantes.
Les jeunes pousses.
Les jeunes pousses, exactement. Ouais. Le principe d'Idils, c'est assez simple. Nous sommes éditeurs d'applications.
D'accord.
L'application Idils étant une application sociale et géolocalisée de rencontres, qu'elle soit amoureuse ou amicale.
D'accord.
L'idée est donc, depuis Idils, d'accéder à des communautés d'utilisateurs qui sont soit situées à proximité, soit qui en affinité avec des habitudes de vie sociale communes avec vous.
D'accord. Donc, je suis avec un téléphone et puis on me dit, tiens, ce serait pas mal d'aller à tel endroit ou...
Exactement. L'idée d'Idils, c'est de vous recommander des lieux de sortie, des lieux où faire des belles rencontres, donc de rencontrer des utilisateurs qui correspondent à vos attentes.
D'accord.
Et l'idée aussi est de pouvoir rencontrer des utilisateurs qui ont des habitudes de sortie en commun avec vous et donc, a priori, avec lesquels vous avez des choses à partager, des choses à raconter.
D'accord. Intéressant, effectivement. Alors, on a quelques copies d'écran. Tu vas peut-être nous indiquer un peu de quoi il s'agit.
Oui. Alors, Idils, c'est une application géolocalisée. Donc, sur cet écran, en fait, de façon assez simple, vous pouvez accéder, vous pouvez sélectionner une zone géographique, n'importe où en France, qui vous permet d'ouvrir une vue sur l'ensemble des utilisateurs situés dans cette zone. Par défaut, cette zone est centrée sur votre position géographique réelle.
D'accord. Donc, boulevard Diderot, là, c'est là où je suis.
Boulevard Diderot, c'est là où vous êtes.
Ouais.
Ensuite,
et Paris, c'est là où je vais.
Et Paris, c'est là. Voilà, si vous êtes par exemple à l'est de Paris et que vous souhaitez voir quels sont les utilisateurs situés dans le centre de Paris, vous suffit simplement de sélectionner cette zone.
D'accord. Ok.
Ensuite, une fois que vous avez sélectionné une position, vous accédez à ce type d'écran qui vous permet d'accéder à l'ensemble des utilisateurs qui sont ordonnés par ordre décroissant de distance.
C'est Sabrina qui est la plus proche.
C'est Sabrina qui est effectivement la plus proche. Vous pouvez rajouter des critères de filtre, évidemment des critères de filtre additionnels sur le genre, sur le type de relation recherchée, etc.
D'accord.
Vous sélectionnez un profil à partir de cette mosaïque.
Ouais.
Et là, vous accédez effectivement au profil d'utilisateur sur lequel, à partir duquel, vous pouvez accéder à une fonctionnalité de chat, aux informations relatives à l'utilisatrice, à l'ensemble des photos éventuellement que cette utilisatrice a à rajouter.
D'accord.
Et également aux spots visités par l'utilisatrice, donc typiquement l'ensemble des lieux de sortie, ou enfin festifs, culturels ou autres, que vous avez en commun avec cette utilisatrice.
Donc ça, c'est je clique à peu près en bas à droite, là, dans spot visité, j'arrive sur cet écran-là, c'est ça?
Non, c'est le chat. Donc il y a une messagerie instantanée qui vous permet de façon assez classique d'échanger à la fois des messages texte, votre position géographique, si vous, par exemple, vous donnez rendez-vous à un autre utilisateur, donc il peut tout de suite accéder à votre position géographique.
D'accord.
Et également échanger des photos. Voilà.
Ok. Ça, c'est...
Alors ici, vous avez
les spots. Ah,
cette fois, c'est les spots.
Donc, les spots, c'est les endroits où...
Les spots, ce sont ces lieux sportifs, culturels, festifs, etc.
Ouais.
Donc effectivement, Idils, c'est deux choses. C'est d'une part les utilisateurs et d'autre part les lieux où rencontrer ces utilisateurs. Donc là, effectivement, vous avez la vue qui précise l'ensemble des lieux situés à proximité.
On voit le 51 du chat d'avant, là, où, effectivement.
Voilà,
ça
le 51,
dit d'aller boire un verre au 51 et le 51.
Voilà, le 51 qui est donc le bar le plus proche, qui se situe à 470 mètres de ma position. Vous avez donc effectivement un type de catégorie phare, vous avez les bars, les clubs de sport, etc. et d'autres lieux culturels.
Avec les haltères, c'est les clubs de sport.
Les haltères, c'est des clubs de sport, voilà.
C'est ça, j'essaie de suivre. Impeccable. D'accord. Et puis, ici,
vous êtes sur la fiche du spot. Donc, l'intérêt d'IDIL, c'est également que IDIL s'agit aussi comme un guide. Donc, vous pouvez, depuis l'ensemble des spots, accéder à l'ensemble des statistiques de fréquentation des spots.
D'accord.
Donc, typiquement, là, le 51, nous sommes sur un spot dont la moyenne d'âge est 33 ans, répartition homme-femme 50-50. On peut imaginer d'autres types de répartitions. Donc ça, ce sont des données qui sont enregistrées sur la base de la fonctionnalité que vous voyez en haut à gauche, la fonctionnalité de checking.
De checking, oui, d'accord.
Et à partir de ce checking, donc effectivement, donc d'une part, vous enregistrez votre profil utilisateur, mm-hmm. et d'autre part, vous enregistrez également le profil du spot.
D'accord, oui, effectivement.
Et depuis le spot, donc j'ai des fonctionnalités très classiques qui sont où se situe le spot, donc fonctionnalité de localisation. Les utilisateurs ont également la possibilité d'ajouter des photos dans le spot.
D'accord.
Et également, l'intérêt principal de du spot, c'est de pouvoir accéder à la liste des utilisateurs qui fréquentent le spot. Mmh. Donc, on peut imaginer des scénarios où vous entrez dans un bar, exemple 51, vous faites un checking, donc vous indiquez ainsi aux autres utilisateurs de l'application que vous êtes dans ce bar, et vous pouvez accéder à l'ensemble des profils de tous les utilisateurs qui sont D'accord. actuellement présents dans ce bar également. Donc, c'est un moyen assez sympa.
C'est la liste des gens qui sont en ce moment dans le bar ou sont les gens qui vont habituellement dans le bar?
Alors, vous avez en premier lieu les utilisateurs qui sont actuellement dans le bar.
D'accord.
Et ensuite les utilisateurs qui ont fréquenté récemment le bar.
Ok. Très bien, intéressant, effectivement. Plutôt que de regarder la carte du menu et ce qu'on va manger, on regarde plutôt qui on va rencontrer. Quoi. Donc,
c'est un autre type de menu.
Oui, voilà. Effectivement, c'est intéressant. D'accord. Et donc, on passe aux rencontres d'Idils, là, du coup, d'Idils lui-même, quoi. Comment est-ce que d'abord Idils a rencontré le cloud? Quelle était l'idée, Anthony?
C'est vrai que notre objectif, c'est d'avoir beaucoup d'utilisateurs.
Ouais.
Et derrière, du coup, de pouvoir monter en charge.
Les utilisatrices aussi?
Pourquoi pas,
ouais.
si possible. D'accord. Et du coup, il fallait pouvoir être capable de monter très fortement en charge et potentiellement avoir des grosses baisses de charge aussi.
D'accord.
Et donc,
pour pouvoir mettre... Oui, le jour, par exemple, personne sort, donc on peut
enlever les serveurs. Une publicité à la radio ou à la télévision, beaucoup de connexions simultanées. Et puis des phases un peu plus en baisse potentielles.
D'accord.
Avec des moyens limités en phase de démarrage, on s'est dit qu'il fallait pouvoir positionner le curseur de montée en charge assez facilement.
D'accord.
Et du coup, on s'est orienté sur une solution cloud.
Très bien.
Donc, particulièrement Microsoft, on a eu des bons échos sur Microsoft. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté Azeo. J'ai remercié un collègue qui travaillait là-bas.
Ah oui.
Et c'est via Azeo,
ça facilite.
Exactement. qu'on a rencontré Jean-Marc, qui du coup nous a fait toute notre architecture technique.
D'accord, donc côté serveur, en fait, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter un peu plus. C'est Azeo qui fait le développement, et puis il y a également une autre société, Oreva, qui fait le développement côté mobile.
Exactement. Ça.
D'accord. Ok. Et Azeo, Jean-Marc, alors, si tu peux nous dire quelques mots de la société avant qu'on rentre dans le vif du sujet
Azure. Non, Azeo, donc, c'est un groupe, une SS2I, qui a été fondée il y a 2 ans, principalement par des ex-Microsoft.
Mmh. Oui, il y a mon ancien chef.
Voilà. On lui fait un petit coucou. C'est une SS2I qui était, on est certifié Gold au niveau Microsoft dans les partenaires, et on a un certain nombre de compétences autour de l'infrastructure, du développement, de tout ce qui est collaboration, de tout ce qui est communication et le cloud aussi, bien mm-hmm. sûr. Aujourd'hui, on est à peu près 40-50 personnes. On a terminé l'année dernière fiscale avec 3 100 000 d'euros pour le chiffre d'affaires.
D'accord.
Et on espère faire pour juin 2013 autour de 5 millions d'euros.
Ouais. C'est ce qu'on appelle une croissance.
C'est une belle croissance et une belle start-up aussi, qui a 2 ans d'existence seulement.
Ouais, c'est vrai que je pensais que c'était plus que ça, mais effectivement, c'est... Très bien. L'architecture, donc... Déjà, à grosse maille, en fait, comment est-ce que les choses se présentent? On démarre peut-être par l'utilisateur ou...
Oui, donc on va se centrer principalement sur l'utilisateur IDILS.
D'accord.
Donc l'utilisateur IDILS, il va utiliser son application à travers son iPhone
ou
son iPad.
D'accord.
Donc on peut l'utiliser sur les deux devices.
Oui.
Cette application iPhone va lui présenter en fait l'ensemble des informations, des vues, des détails de profil, des détails de spot, etc.
Ouais.
Et il va chercher ces informations sur Internet à travers des services qui sont installés sur Azure.
Donc d'accord.
C'est là où on arrive sur le cœur de l'application.
Donc ça, ce sont les services BO, là,
C'est les services BO. Voilà. Mmh. Donc tout à fait. Les services BO, bah, c'est une architecture web, MVC 4, sur laquelle on va dialoguer avec l'application iPhone à travers des services sérialisés en JSON.
D'accord. Donc JavaScript Object Notation.
Voilà. Pourquoi ? Bah parce que en fait c'est beaucoup plus compact par exemple que du XML, du SOAP, et c'est beaucoup plus adapté à du développement autour d'iOS et de tout ce qui est Android aussi.
Ouais. En plus c'est plus à la mode.
Voilà. C'est quand même plus et c'est beaucoup plus simple à manipuler aussi en termes de codage. Voilà.
D'accord.
À travers ça, on va dialoguer avec différents serveurs autres que de la plateforme Azure.
Ouais.
Donc les premières choses, bah, y a le serveur pour les publicités à travers Google.
D'accord.
On va avoir.
Donc ça, c'est directement, entre le smartphone et les services Google. D'accord.
Ouais, tout à fait. Là, c'est directement embarqué dans l'application iOS.
Ok.
On va aussi dialoguer à travers le serveur Apple. C'est le principal serveur sur lequel on va travailler. D'un côté, pour tout ce qui est notification. Donc, par exemple, comme disait Julien, un utilisateur fréquente un lieu, il va indiquer qu'il fait un check-in dessus.
Ouais.
Bah, à ce moment-là, il y a une notification qui est envoyée à tous les utilisateurs qui le suivent pour indiquer qu'il est en train de fréquenter le lieu.
D'accord. Donc, push notification.
Push notification. Deuxième utilité des serveurs Apple, surtout, c'est pour la partie achat. Donc, l'application a choisi d'être gratuite en téléchargement.
Ah oui, quel est le modèle économique d'ailleurs ? On n'a pas.
Le modèle économique, il est assez simple. L'application est donc, comme le disait Jean-Marc, gratuite. Donc, l'installation est gratuite. Ensuite,
d'accord.
L'utilisateur, le modèle est freemium. Donc, l'utilisateur a accès, une fois l'application installée sur son smartphone ou sa tablette, a accès à une période de découverte,
d'accord.
D'une durée variable, mais qui sont en moyenne aux alentours de 30 jours.
D'accord.
Au-delà de cette période, l'utilisateur ou l'utilisatrice est invité à souscrire un abonnement, soit à la semaine ou sur une période de 6 mois.
D'accord. Ok. Et il y a des pubs aussi, puisque.
Et également un peu de publicité, même si le modèle économique d'Edil se repose principalement sur les abonnements.
D'accord.
La publicité étant pas la part primaire des revenus.
D'accord. Donc principalement sur abonnement, quoi.
Voilà. Et avec un positionnement prix d'Edils, pour le coup, particulièrement attractif au regard des prix pratiqués par les sites de rencontres traditionnels sur le web.
Ok. Très bien. Et pas de rémunération des spots
Non, ça, c'est des choses qui sont. C'est des questions qu'on s'est posées côté Deals. C'est sans doute un axe de développement pour nous à terme. Ceci dit, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas forcément un marché très mûr au niveau des managers de bar, des managers de club. Pour souscrire ce type de prestation.
D'accord.
Donc c'est quelque chose qu'on étudie, mais c'est pas dans notre modèle économique à court terme.
D'accord. Donc on revient sur l'architecture, pardon.
Une autre communication avec les serveurs Apple, c'est pour tout ce qui est achat intégré.
Oui.
À travers l'application iOS, son compte iTunes, il va pouvoir faire ses achats, donc son abonnement de une semaine, un mois, trois mois, six mois. Et tout ça est ensuite retransmis au service BO.
D'accord.
Pour pouvoir être stocké et l'autoriser à accéder pleinement à l'application.
Voilà. D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut trouver encore derrière ? Tout ce qui est back-office de gestion, donc
d'accord.
Tout ce qui est gestion asynchrone en fait, l'envoi de notifications ou l'envoi de mails.
Ah oui, on voit le broker mail là par exemple.
Voilà, tout à fait. Donc Azure en fait n'autorise pas la gestion des mails en interne dans Azure pour des questions.
Oui, on ne fournit pas de serveur SMTP. En fait.
Voilà, pour des questions de blacklistage d'adresse IP, etc. Oui. Donc c'est recommandé d'utiliser un broker de mail.
Mm-hmm.
Et donc c'est ce qu'on a fait dans Edils pour pouvoir envoyer les mails.
Donc là vous utilisez SendGrid, je crois. Enfin...
Alors le produit, oui, aujourd'hui on a fait un abonnement avec SendGrid.
D'accord.
Sur lequel on est interfacé, sachant que l'interface est changeable si on trouve un meilleur fournisseur ou une qualité de service plus intéressante, on va pouvoir migrer assez facilement vers un autre fournisseur.
D'accord, oui, de toute façon c'est du SMTP fondamentalement, donc
fondamentalement c'est ça, oui.
Ok,
tout à fait.
Le site d'administration.
Alors, le site d'administration.
Développé en interne de notre côté.
D'accord.
Donc, on était hébergé sur Azure dans un web rôle. D'accord. Et fait en MVC4.
Très bien.
Histoire d'avoir une homogénéité maximale en termes de techno.
D'accord. Pratique à utiliser, ASP.NET MVC.
Très simple,
ouais. Sympa.
Ouais.
Bon, moi, j'aime bien aussi. ok, le front vitrine, donc là, lui, il est en dehors d'Azure.
Il est en dehors d'Azure, il est hébergé ailleurs et il s'agit juste d'une vitrine pour présenter le produit, faire quelques campagnes marketing et avoir un petit peu de visibilité par rapport à l'application.
Voilà. D'accord, ok. Et administrateur modérateur, donc ça effectivement sur le site d'administration puisque c'est logique. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail au niveau de ce qui se passe dans Windows Azure.
Oui.
Donc Jean-Marc, oui, si tu peux nous décrire un peu.
Oui, donc là on a
ce que nous avons dans les pointillés.
Tout à fait. Donc tout ce qui est dans les pointillés, c'est ce qui est hébergé dans Azure.
D'accord.
Donc aujourd'hui, le principal intérêt, c'est tout ce qui est le frontal de service.
D'accord.
Sur laquelle l'application iOS, les différents utilisateurs vont accéder.
Ouais.
Donc lui va être composé de web roles.
Ouais.
Aujourd'hui, on va démarrer petit, entre guillemets, ouais. C'est-à-dire qu'on va mettre deux frontaux web,
ouais.
Bénéficier surtout du SLA qui est garanti par rapport à cette architecture.
Ouais.
Et pouvoir demain monter en charge avec 3, 4, peut-être 10 web roles qui vont pouvoir absorber l'ensemble des requêtes qui vont arriver sur les frontaux.
À partir de 100, vous revenez nous voir.
Ça marche.
Pour un prix d'amis pour,
c'est possible.
Pour vous en parler. D'accord.
Alors, à travers ça, on va stocker un certain nombre de données derrière. En back office. Donc, on va utiliser les deux storage importants dans Azure, qui
ouais.
sont d'un côté la base SQL Azure.
D'accord.
Et puis de l'autre côté, toutes les données qui vont être stockées soit dans des blocs, soit dans des tables, soit dans des queues.
D'accord. Donc là, on a pour la base Azure SQL Database, on a la base admin, la base back office, là, qui sont la même base pour l'instant, je crois, mais qui sont avec des schémas différents, donc
voilà.
qui sont donc, splittables.
Aujourd'hui, on a intégré l'ensemble dans une seule base
ouais.
SQL Azure,
ouais.
Ce qui nous permet d'avoir plus de facilité de management et un meilleur accès à l'ensemble des données.
Ouais.
Par contre, d'un autre côté, ce qu'on n'a pas.
Attends, il y a plein d'anniversaires là.
Ce qu'on n'a pas mis, en fait, c'est toute la partie blob. Donc
ouais.
les blobs, pourquoi on les utilise ? Comme on l'a vu dans les photos d'écran, il y a des images.
Ouais.
Que ce soit pour les utilisateurs ou pour les spots,
mm-hmm.
ils peuvent publier un certain nombre d'images. Donc toutes ces images, on les a mis dans les blobs.
Dans
c'est
blob
vraiment sens, ouais. fait pour ça. Et on, à travers nos services, on donne l'accès directement au blob.
À l'URL du blob.
À l'URL en fait. Du blob. Donc ce qui facilite... En termes de chargement dans l'application iOS, un mode d'affichage asynchrone.
Donc là, on va avoir un HTTP account.blobstorewindows.net/michelmartin.jpeg, par exemple.
Voilà, on a anonymisé quand même un petit peu les URL pour éviter d'avoir une reconnaissance immédiate de l'association de l'image et de l'utilisateur ou du spot.
Ouais.
Par contre, les accès sont libres, c'est-à-dire qu'on n'a pas...
Enfin, pour peu qu'on arrive à deviner un guide.
Pour peu qu'on arrive à deviner un guide, on trouve la photo,
ce qui
est quand même
un peu.
difficile de la trouver par hasard. Voilà, tout
d'accord.
à fait.
Ok.
Tout ce qui est queue, on l'a utilisé pour tout ce qui est asynchrone, c'est-à-dire
ouais.
l'envoi de notification ou l'envoi de mail, on va poster la notification et le mail dans la queue.
D'accord.
Et quand on aura le temps, on enverra ce mail ou cette notification.
Très bien.
Et comme on peut le voir, il y a un serveur.
Donc ça, c'est consommé par le worker role
dédié pour ça.
Back office là.
Voilà.
D'accord.
Et un worker role dédié pour ça. Donc lui, on n'a mis qu'une seule instance aujourd'hui, puisque vraiment, il n'a pas une charge énorme. Le SLA n'est pas garanti, mais grosso modo, même si elle tombe une demi-heure, un quart d'heure après, la machine est remontée,
oui.
elle reprend son service.
Oui.
Au pire, on a peut-être
oui,
retardé un quart d'heure
ou une demi-heure.
Voilà, tout à fait.
Donc
ce qui n'est pas critique
oui.
pour l'utilisation de l'application.
D'accord.
Et puis enfin, on a utilisé les tables parce qu'il y a un certain nombre de données qui sont assez consommatrices.
Donc là, c'est du stockage NoSQL. Hein.
Voilà, du NoSQL. Pourquoi ? Par exemple, pour tout le chat.
Ouais.
Et pour toutes les news, donc les news, c'est des infos marketing, ça va être des notifications, ça va être tout un ensemble d'informations. et ça représente énormément de volume. Ces deux choses-là. Donc, d'accord, on évite de les stocker dans la base SQL pour éviter de la faire grossir beaucoup, oui, trop. Et on a utilisé les tables qui ont un coût de revient beaucoup moindre, oui, par rapport à ça.
Et puis là, on est limité à 100 ou 200 Tera, donc ça va.
Ça va aller, je pense, okay, qu'on a,
on a le temps de faire, on a le temps de faire le ménage, ouais, du jour avant d'en re-remplir, donc ça,
voilà,
ça va.
D'accord. Et on a un dernier point qui, comme Anthony disait, c'est le site d'administration qui lui aussi est hébergé dans Azure. Donc à travers un web role, lui aussi n'a pas de SLA garantie, mais de la même manière, c'est pas un service sur lequel on a une forte demande.
Oui.
Donc on n'est pas
obligé. On pourrait
même
le mettre en deux extra small à la limite pour avoir le SLA. Et...
Tout à fait, parce que là vraiment la charge est très peu, est très très petite. On a très peu d'utilisateurs qui vont utiliser ce site d'administration. On pourrait le baisser.
C'est toi très peu d'utilisateurs en fait.
Oui, enfin c'est nous.
Oui, t'as le droit aussi,
oui.
Pas encore, pour l'instant on a le même droit, mais effectivement oui, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de site d'administration, mais il a un rôle essentiel parce que sur ce marché là la modération des contenus est vraiment,
ah oui,
vraiment essentielle,
oui.
Plus derrière toute la réactivité par rapport aux interactions qu'on pourrait avoir de la part par rapport aux tickets soumis par les utilisateurs.
D'accord, oui.
Donc tout ce qui est support client, mais également signalisation des abus, ce genre de choses.
Oui, d'accord. Donc, ok. Voilà.
Donc si aujourd'hui, si le besoin change en termes de SLA, on peut toujours en quelques clics augmenter le nombre de serveurs qui est.
Oui, c'est ça, oui. À la limite.
C'est l'intérêt d'Azure.
Oui. Ouais.
L'intérêt d'Azure, et là justement sur l'architecture, on est parti sur une architecture la plus simple et la moins chère possible,
ouais,
pour pouvoir démarrer cette application. Mais demain, on peut
augmenter. Oui, là, on voit bien qu'on est dans un mode scale down, en fait, dans le but de effectivement consommer peu au démarrage,
voilà,
et puis être capable de s'étendre ensuite.
Tout à fait.
Dès qu'il y a plein d'utilisateurs et d'utilisatrices qui arrivent en cliquant frénétiquement sur l'appli.
C'est ça. Voilà.
Et on espère que ça arrivera très vite.
Voilà. Très bien. Ok, d'ailleurs en terre. Alors oui, juste, on n'a pas vu comment est-ce que.
Donc,
on
juste
faisait push.
Une petite partie sur les push, en fait,
oui,
notifications. On a utilisé une librairie qui s'appelle Push Sharp.
D'accord.
L'avantage de cette librairie, c'est qu'elle gère toute la partie déjà asynchrone d'envoi de notifications.
D'accord.
Donc il y a tout un process qui est interne, qui permet de faire ces envois, et surtout elle est compatible avec toutes les notifications aujourd'hui qu'on pourrait trouver sur le marché.
D'accord.
Que ce soit de l'iPhone, que ce soit de l'Android, que ce soit du Windows Phone, du Windows 8 ou du BlackBerry.
D'accord.
Donc elle,
okay,
est vraiment multiplateforme et tout a été développé en C#. Donc,
d'accord,
ça s'intègre extrêmement facilement, surtout en utilisant du Git pour pouvoir,
ouais,
faire l'intégration dans le projet.
Et pourquoi pas Mobile Services d'ailleurs pour tout ça?
Alors Mobile Services, lorsque c'est sorti, on avait déjà démarré l'application. Donc,
okay,
il y avait à peu près 50% de l'application qui avait déjà été implémentée.
Ouais.
Donc, on s'est posé le choix de savoir est-ce qu'on arrête là, est-ce qu'on redéveloppe par rapport à Mobile Services. L'inconvénient de Mobile Services, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, dans Ideals, on a beaucoup, beaucoup de règles métiers.
Ouais, donc,
à travers chaque service, on a énormément de règles métiers, que ce soit... soit des achats parce qu'il a fait un achat intégré, donc il a le service premium,
oui,
donc déjà gérer ces cas de figure directement dans le service, soit des règles métiers de localisation, de push, etc., qui sont difficilement,
oui,
implémentables à travers Mobile Services.
Il y a aussi
services.
Que Mobile Services est typiquement fait pour des gens qui veulent développer une application mobile, qui ont besoin d'un back-end, mais qui n'ont pas envie de s'ennuyer à le développer. Là, en l'occurrence, Azeo, vous savez à peu près comment développer un back-end.
Voilà, normalement, ça devrait le faire.
Donc effectivement, pour faire des choses plus complexes.
Pour faire des choses un peu plus complexes, c'est peut-être pas la meilleure solution.
D'accord.
Et la rapidité, en fait, aussi de pouvoir développer avec Mobile Services, on n'en avait pas la fonctionnalité aujourd'hui. On avait à peu près quand même bien planifié le développement, que ce soit côté iOS ou côté back-office. Donc, ça ne s'est pas demandé à ce niveau-là.
D'accord. Ça sort quand d'ailleurs, Julien?
Tout dépend en fait des délais de validation d'Apple, mais on mise sur un lancement au plus tard début du mois de janvier 2013.
Et pour la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
Donc aujourd'hui, on s'ouvre sur iOS. Notre objectif, c'est de partir très rapidement sur Android et Windows Phone 8.
Ah oui, c'est important ça.
Voilà, surtout, on a fait tout ce qui était nécessaire côté serveur pour pouvoir supporter les différentes plateformes, tout ce qui est interopérabilité.
Oui, les serveurs Apple, les serveurs de push, etc. Effectivement, que ce soit des serveurs Apple, Microsoft,
tout à fait,
Google.
Sont déjà prévus, on peut pouvoir faire les notifications là-dessus. Et puis, ben, les services sont codés en JSON. Donc, on est compatible toute plateforme. On va pouvoir s'intégrer rapidement, que ce soit du Windows Phone, du Windows 8 ou de l'Android.
Ouais,
on va pouvoir les gérer à travers ce type de service assez rapidement.
Mais pourquoi pas du HTML5 si nécessaire?
Ouais, d'accord. Et puis, on évoquait aussi pour le moteur de recommandation, le fait de pouvoir utiliser Mahout éventuellement, qui est une partie de Hadoop, en fait, le framework Big Data. En fait, j'ai mis une URL là, ici qui est... donc l'URL courte, c'est akms/mahout-recommande, où on retrouve en fait un exemple de code qui permet de faire des recommandations en disant si une première personne a regardé les vidéos A, B et C, qu'une deuxième personne a regardé les vidéos A, B et qu'une troisième personne a regardé A et D aussi, peut-être que enfin A et C, on peut lui recommander B. Donc c'est effectivement un algorithme qui permet de faire ce genre de choses. Donc ça peut être aussi une piste dans l'avenir pour aider à la recommandation ou pousser les recommandations un peu plus loin. Sur les établissements, par exemple. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Et puis, bon lancement.
Merci.
Bon test d'abord et puis bon lancement par la suite.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.